Chapitre 39. Syriane ligota le rhinocéros et le merle avec leurs ceintures, leurs lacets et la cravate du commissaire. Les traîna dans un coin, récupéra l'arme de service de Verdier, qu'il confia à Léonie après avoir déverrouillé le cran de sûreté, puis, muni du pistolet de Svaros, il pressa le bouton commandant l'ouverture de la porte de la salle de translation. Traversa le premier sas désert et, suivi des filles, s'engagea dans l'étroit corridor. Deux vigiles se dressaient quelques pas plus loin dans la petite pièce nue éclairée par la lumière rasante du matin. L'arme pesait des tonnes dans la main de Léonie. La dernière fois qu'elle avait tenu un pistolet, elle avait pulvérisé le crâne de Lucius, le pan. Un froid ténébreux, hideux, s'était étendu sur elle, comme s'il allait l'emporter avec lui de l'autre côté. Elle était devenue une servante de la mort. Mais elle avait repris des forces dans les bras et la chaleur de Syriane, envahie de sentiments d'une violence et d'une douceur extrême. Elle n'avait jamais connu un tel bouleversement, même avec Denis, le boule. Mais lui, elle ne l'avait pas porté dans sa chair. Elle avait seulement plongé dans la douceur infinie de son regard. L'apparition du jeune homme blond, qu'il n'avait pas vu entrer avec les autres un peu plus tôt, aurait dû alerter les vigiles. Ils ne réagirent pas, pensant sans doute que Svaros, le responsable de la sécurité, allait sortir à son tour. Syriane s'approcha d'eux avant de relever le pistolet dissimulé derrière sa cuisse et leur ordonna d'un geste péremptoire de s'écarter. Ils reculèrent après un moment de stupeur et d'hésitation. La porte du sas se referma dans un sifflement à peine perceptible. Léonie constata avec soulagement que la femme aux yeux jaunes, la chatte et ses hommes avaient déserté les lieux. Des grondements de moteurs et des cris provenant de la cour transperçaient les fenêtres et les murs. La main d'un des vigiles vola vers la crosse de son arme. Elle n'eut pas le temps de l'atteindre. Le pistolet de Syriane avait craché dans un hoquet étouffé. Touché à la cuisse, le cerbère perdit l'équilibre et s'affaissa de tout son long sur le carrelage. Léonie épia les réactions de l'autre, le doigt crispé sur la détente. Il leva bien haut les bras pour signifier qu'il n'avait pas l'intention d'esquisser un geste. Elle fut soulagée de ne pas avoir à tirer. Elle redoutait d'être contaminée par le froid de l'au-delà. Dehors, le vacarme s'amplifiait. Syriane ordonna au vigile de se retourner, s'avança dans son dos et lui asséna un violent coup de crosse sur l'arrière du crâne. L'homme, du genre costaud, mit un peu de temps avant de fléchir sur ses jambes et de tomber à genoux. Il heurta durement le mur, bascula vers l'arrière, s'affaissa sur le dos en laissant échapper une exhalaison rauque. Le blessé gémissait en sourdine, la main plaquée sur sa blessure, le pantalon et le bas de sa veste maculés de sang. Il n'y avait qu'une seule issue, le long couloir qui rejoignait le grand salon et desservait une dizaine de pièces. Syriane s'y engagea et fit signe aux filles de le suivre. Or elle ne bougea pas. Aucune expression, yeux mornes, traits impassibles, état de choc. Léonie l'entraîna par le bras dans le passage. Ils parcoururent 5 ou 6 mètres avant qu'un brouhaha retentisse devant eux. Une troupe accourait dans leur direction, qui ne tarderait pas à déboucher dans le couloir. Syriane essaya la première porte sur sa gauche. Elle s'ouvrit sans difficulté. Il attendit que les deux filles se soient réfugiées dans la pièce pour s'y précipiter à son tour et refermer la porte derrière lui. Il resta collé au bois, reprenant son souffle, jusqu'à ce que le tumulte enfle et fasse vibrer la cloison, avant de s'éloigner. Une salve de vociférations signala que la petite troupe, 5 ou 6 unités, peut-être plus, avait découvert les deux vigiles neutralisés au bout du couloir. Syriane inspecta la chambre du regard. Les rideaux épais, filtrant la clarté du jour, la maintenaient dans la pénombre. Le lit était occupé par un malade ou un blessé sous perfusion. Il bloqua le petit verrou, se rendit près de la fenêtre, écarta les rideaux. La pièce donnait sur l'arrière de la maison, une vaste clairière inondée de lumière, parsemée de massifs, de buissons, bordée par une épaisse forêt 100 mètres plus loin. Consultant Léonie du regard, il lut dans ses yeux une confiance absolue, vertigineuse. Mieux valait tenter de traverser l'espace dégagé plutôt que de rester confiné dans cette chambre, même s'il leur faudrait 30 secondes pour atteindre la lisière de la forêt. Le regard de Léonie était une invitation à prendre des risques. Elle dansait depuis sa tendre enfance sur la corde tendue au-dessus de l'abîme. Elle était tous les noms de l'histoire. Il ouvrit la fenêtre. Une fraîcheur piquante et divers bruits emplirent la pièce, rugissements de moteurs, rafales d'armes automatiques, crissements, clameurs. D'un geste, Syriane pressa les filles d'enjamber l'appui de la fenêtre. Il entrevit alors le visage du blessé, le reconnut malgré les bandages qui lui masquaient le nez et une partie du menton. Johannes. Johannes. Relié à un moniteur qui affichait son rythme cardiaque et sa tension. Johannes, dont les cheveux reposaient sur l'oreiller comme un soleil gisant. Johannes, perdu entre la vie et la mort. Cyrianne ne ressentit rien d'autre que de la compassion pour son ancien parrain. Tout vestige de haine, tout ressentiment avait disparu. Le monde vu par les yeux de Johannes était une forteresse à conquérir, un royaume à bâtir, un défi perpétuel. Il se servait des hommes comme de soldats sur son champ de bataille. Il n'y avait plus de place pour les sentiments dans un cœur en guerre. « Le grand hibou ?» chuchota Léonie. Elle se souvenait de sa voix sèche, de son regard couleur d'eau sale, de ses gestes brutaux, de son mépris. Elle espéra que l'occasion lui serait offerte de se réconcilier avec la vie. Poussant Aurèle vers la fenêtre, elle l'aida à passer dehors. Des claquements de portes retentirent un peu plus loin, dominés par des glapissements suraigus. La petite troupe avait commencé à fouiller les chambres. Léonie reconnut la voix de la chatte aux yeux jaunes et, aiguillonnée par la terreur, franchit d'un bond l'appui de la fenêtre. Cyrianne rejoignit les deux filles. La lumière encore rasante du soleil levant les éblouit. Un vent froid, sec, soufflait par rafales et dispersait des odeurs mêlées de poudre, d'herbes coupées et d'essence fleurie. Les grondements des moteurs se rapprochaient. Ils ne distinguaient pourtant aucun véhicule, aucun autre mouvement que les frémissements des herbes, des buissons et des arbustes. Cyrianne prit Aurèle par la main et se mit à courir en direction du massif le plus proche. Les cailloux craquaient et se dérobaient sous leurs pas. D'un coup d'œil, il vérifia que Léonie les suivait. Elle lui sourit malgré la frayeur qui débordait de ses yeux. Sa confiance en lui, en la vie, le bouleversa, le galvanisa. Le fracas d'une porte brisée se fit entendre derrière eux. La chatte aux yeux jaunes et ses hommes se ruaient dans la chambre de Johannes. Plus que 10 mètres avant le massif. Ils se jetèrent sous les buis taillés. La joue de Cyrianne se lacéra sur les épines d'un rosier. La course, brève, violente, lui avait coupé le souffle. Son organisme n'avait pas encore récupéré de son coma artificiel. Le visage d'Aurèle n'affichait aucune expression. Elle ne transpirait pas, ne haletait pas, absente de son corps. Léonie, allongée à ses côtés, avait glissé la tête entre les buissons pour surveiller leurs arrières. Des hommes vêtus de cuir et de jeans franchirent un à un la fenêtre de la chambre de Johannes et se déployèrent dans la clairière. La chatte fermait la marche. Léonie frissonna. Cette femme n'était pas une servante de la mort. Elle était la mort même. Toute la cruauté du monde concentrée dans ses yeux. La mort qui moissonnait le pays de l'homme blanc. Au Libéria, elle prenait la forme d'enfants armés de mitraillettes, qui tuaient par jeu. Ailleurs, le regard implacable d'un bourreau, la précision diabolique d'un sniper, la rage désespérée d'un kamikaze. Léonie leva le pistolet du rhinocéros et le maintint machinalement pointé sur la chatte. Ses hommes et elle avançaient prudemment en direction du massif, jetant de temps à autre des coups d'œil en direction des grondements. Cyrianne repoussa une violente attaque de panique. Il ne pouvait ni se relever, ni se mettre à courir maintenant. Il n'avait d'autre issue que d'ouvrir le feu. Il se positionna pour se ménager une lucarne de tir et dégager son bras. Malgré sa peur, ses gestes étaient d'une efficacité et d'un calme étonnant. Les autres n'étaient plus qu'à 10 mètres. Il lança un regard de biais à Léonie, toujours de l'effroi dans ses yeux noirs, mais aussi de la détermination et cette confiance indestructible, inexplicable. Elle n'attendit pas son signal pour presser la détente de son pistolet. La chatte aux yeux jaunes, qui se tenait pourtant en arrière, sursauta, frappée en pleine poitrine. Cyrianne tira à son tour plusieurs fois de suite, pour ne pas laisser au poursuivant le temps de s'organiser. 3 d'entre eux s'écroulèrent, les autres battirent en retraite en direction de la maison, aucun ne vola au secours de la femme étendue sur l'herbe et secouée de spasmes. « On fonce !» souffla Cyrianne. La crosse du pistolet lui brûlait la paume. Il se remit debout, aidant Aurèle à se relever. Léonie fixa un moment la femme qu'elle avait abattue. Elle ne ressentait pas le même froid hideux que sous le corps inerte de Lucius. Peut-être parce que sa victime remuait encore, ou qu'elle était la mort même, et que tuer la mort n'était pas un sacrilège. Ils repartirent en direction de la forêt. Alors qu'ils se lançaient sur une portion complètement dénudée, une voiture noire déboucha à vive allure de l'angle formé par la maison et les dépendances, louvoyant entre les massifs. Deux hommes avaient passé le bras par la vitre de leur portière et restaient tournés vers l'arrière tandis que le conducteur rattrapait avec adresse les dérapages sur les cailloux et l'herbe humide. « Qu'est-ce que... » Le garçon et les deux filles surgit d'un massif, cavalés en direction de la forêt. Paul jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Les 4x4 lancés à leur poursuite, moins rapides que la BMW, n'étaient pas encore visibles. Il avait réussi à les semer en feignant de piquer droit sur l'orée de la forêt entre le plan d'eau et la clôture. Puis, en changeant brusquement de direction, au risque de s'embarquer dans un dérapage incontrôlé. Une balle avait fracassé la lunette arrière sans provoquer d'autres dégâts.
« Du monde devant !»
Ahmed et Edmé pivotèrent dans le même mouvement et aperçurent à leur tour les trois silhouettes courant au milieu de la clairière.
« Les filles arrivaient avec le divisionnaire !» cria Ahmed. « Qu'est-ce qu'elles foutent là ?» grogna Paul. « Elles s'enfuient. Il y a du monde derrière !»
Ahmed désignait les hommes qui s'agitaient comme des fourmis affolées une quarantaine de mètres plus loin.
« Ils vont les descendre !» rugit Edmé. « Arrête Paul, on les embarque !»« T'es ouf ? Ils vont nous rattraper !»«
On les ramasse, je te dis !» répéta Edmé d'une voix dure.
« Tu fais chier le miso !»
Paul s'arc-bouta sur la pédale de frein et débraya. La voiture hoqueta, vibra de toute sa carcasse, partit dans une longue embardée, finit par s'immobiliser à quelques mètres des fuyards. Paul empêcha le moteur de caler. La fille noire et le garçon blond s'arrêtèrent de courir et braquèrent leurs armes sur le véhicule. Dans leur regard, de l'affolement, mais aussi une ferme résolution. L'autre, la fille blanche, paraissait inerte, comme éteinte. Quel âge pouvait-il avoir ? Une vingtaine d'années ? Comment s'était-il embarqué dans cette galère ?
« Grimpez !»
hurla Edmé en ouvrant sa portière.
« On est flics ! Vite, bordel !»
glapit Paul. Les 4x4 se présentaient dans la clairière. Paul embraya et repartit au ralenti sur le sol jonché de pierres et d'herbes folles. Edmé fit de la place à la fille noire, la première à s'engouffrer sur la banquette arrière. Elle tira l'autre fille par le bras à l'intérieur de la voiture. Puis, tandis que le sixième de groupe accélérait, le garçon parvint à enfourner sa grande carcasse dans l'étroit habitacle. Paul écrasa l'accélérateur avant même qu'il ait eu le temps de refermer la portière sur lui.
« On est trop chargé, putain de merde !»
Lancé à toute allure, les 4x4 gagnaient du terrain. L'orée de la forêt se rapprochait. On distinguait maintenant le chemin de terre entre les arbres et les buissons. Paul contourna un bosquet et un dernier massif avant de foncer droit vers le passage. L'un des 4x4 roulait parallèlement à la forêt pour lui couper la trajectoire. Le bas de caisse raclait les herbes, la terre, les pierres. Pas facile de viser dans les tressautements de la voiture. Edmé et Ahmed firent feu à plusieurs reprises. Leurs balles se dispersèrent dans le vide. Le garçon blond passa la tête et le bras par la vitre de la portière et tira à son tour. Plus qu'une vingtaine de mètres avant l'entrée du chemin. Le 4x4 semblait légèrement en avant sur la BM, mais Paul ne levait pas le pied. Il donna un léger coup de volant sur sa droite, comme pour précipiter une collision qui paraissait inéluctable. Ballotté entre la portière et la fille noire, Edmé crut cette fois sa dernière heure arrivée. Sa vie lui fut rappelée en un éclair, avec une étonnante clarté malgré le déferlement quasi simultané des souvenirs, de sa petite enfance inodore à son adolescence incolore dans une banlieue morne, de son intronisation dans une cellule trotskiste, de la kyrielle de petits boulots minables à ses débuts dans la police, une violente dispute avec son ex-femme, elle veut un enfant, pas lui, bien d'autres motifs de s'engueuler, cette manie qu'elle a de déplacer sans cesse meubles et objets dans l'appartement, un vrai toc, et d'allumer les hommes pour se prouver qu'elle peut encore séduire, les flambées de violence, les gifles, les griffures, les coups, les morsures, et Sylvaine, incroyablement séduisante dans le sous-sol du pavillon de Nogent, sur la terre battue de l'allée de la zone pavillonnaire, sur son lit d'hôpital, Sylvaine, qu'il ne reverra jamais, qu'il emporte avec lui, dans un tourbillon de reconnaissance et de regrets. Sylvaine, qu'il n'a fait qu'effleurer en 7 ans. Sylvaine, qui continuera de vivre sur une terre débarrassée de lui. Bon Dieu, l'injustice de la vie. Pas d'autre choix que d'accepter. Là-haut, les pouces s'abaissent et se lèvent. La masse grise du 4x4 dans le coin de son œil, qui va percuter la voiture. L'énorme pare-choc métallique, une mâchoire de dinosaure. L'homme debout sur le marchepied, le canon du fusil d'assaut pointé sur lui. Le temps suspendu. Aucun des deux, ni Paul, ni le conducteur du tout-terrain, les yeux hors de la tête, ne veut céder. Bluff intégral, silence sidéral malgré le feulement du moteur. Le regard de Paul ne dévie pas, ses mains crispées sur le volant. Edmé se jette en arrière, un réflexe. Il voit encore le 4x4 quitter sa trajectoire dans une violente embardée. Les deux véhicules se frôlent, crissement, grincement, raclement. Paul redresse légèrement, s'engouffre dans l'étroit chemin de terre tandis que le 4x4, emporté par son élan, s'éloigne dans la direction opposée. La voiture bondit sur un petit talus, atterrit quelques mètres plus loin, le bas de caisse laboure le sol. Le pot d'échappement s'éventre sur l'arête d'une racine, boucan de ferraille plié, fracas pétaradant du moteur. Paul ne ralentit pas. Les branches fouettent les ailes et les vitres.
D'innombrables bras végétaux se dressent sur le chemin et obscurcissent le jour, rendant la visibilité quasi nulle. Edmé pense chaque instant qu'ils vont percuter un tronc, un rocher, une branche. Mais la voiture avance en brinque-ballant. Le deuxième 4x4 apparaît une trentaine de mètres en arrière dans les rares lignes droites. Il rattrape son retard, plus adapté au terrain chaotique. Une pluie de balles cingle la carrosserie de l'ABM. Edmé et Ahmed ripostent, essaient de toucher le pare-brise ou les pneus. Les secousses incessantes empêchent de viser juste. Paul a beau peser de tout son poids sur l'accélérateur, les poursuivants comblent l'intervalle mètre à mètre. Le chemin semble s'élargir un peu plus loin. Les ornières sont toujours aussi profondes. Certaines débordent des pluies des jours précédents. Les essuie-glaces balaient péniblement la boue qui gicle en gerbes épaisses. Paul jure, obligé de pencher la tête pour distinguer quelque chose. Un bruit mat. Edmé sent une légère vibration sur sa nuque. Une balle s'est engouffrée par la lunette fracassée. S'est logée dans l'appui-tête de son siège. Heureusement, épais et solide. Il plaque sa main sur le crâne de la fille noire pour la contraindre à baisser la tête. Une nouvelle série de chaos la soulève de la banquette. Lui-même est arraché du cuir. Et se retrouve vautré sur sa voisine et l'autre fille. Il pousse un juron, se dégage aussi vite que possible, reprend sa place près de la portière. Le 4x4 est maintenant tout près, la calandre dans l'échappement de sa proie. Mais par chance, le mauvais état du chemin ne permet pas à ses passagers d'ajuster le tir. L'étroitesse du passage et la densité de la forêt lui interdisent de doubler et de pousser la BM contre un tronc. Edmé attend que le tout-terrain qui louvoie sans cesse d'un bord à l'autre du chemin, en percutant alternativement l'aile arrière et le pare-choc de la berline, soit du côté opposé pour passer de nouveau tête et bras par la vitre. Il s'agrippe à la poignée et, pistolet tendu devant lui, s'efforçant de résister au choc, attend que le 4x4 pointe le bout de son large mufle pour ajuster le conducteur.